vous suit.
Voici les titres du journal.
Une première en Suisse romande, Montée voit naître une maison des écrivains et de la littérature. Elle servira de lieu d'échange et de formation pour les plumes d'aujourd'hui et de demain. Le projet de budget 2023 de l'État de Vaud sera déficitaire pour la troisième année consécutive. L'objectif du canton sera toutefois de soutenir le pouvoir d'achat de sa population. La première édition du Croz Estival se tiendra ce week-end dans la station des Crozets, au programme musique reggae et ambiance familiale. En sport, en tennis, Roger Federer disputera bien le dernier match officiel de sa carrière ce soir à Londres. Et en course à pied, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont de rigueur avant la 8e édition de l'Humani Trail au Diableret.
Il faut profiter de ces quelques derniers rayons de soleil puisque le programme météo de votre week-end s'annonce très humide. La météo complète, c'est à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour. La première maison des écrivaines, des écrivains et des littératures est née à Montée, la Melle de son petit nom, a pris ses quartiers au sein du château de la ville et a été présentée hier à la presse. Il s'agit d'une idée de la Société des écrivains valaisans, la Sève, qui souhaitait disposer d'un lieu de formation, de rencontre et d'échange pour les auteurs francophones. Les explications du président de la Melle et de la Sève, Pierre-André Milite.
C'est venu vraiment de la demande du théâtre. Donc en peu de temps, la Sève s'est agrandie, compte maintenant plus de 180 membres, dont une section jeune. Et des personnes qui disaient, mais qui fait partie de la Sève? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut faire des choses? Donc c'est venu un peu de cette question-là. Et puis la particularité de la Sève par rapport à d'autres associations de littérature, ça s'adresse à tout un chacun qui a envie, qui a de l'intérêt à l'écriture. Donc la MEL a mis sur place des programmes de formation pour toutes ces trois entités d'amateurs, d'émergents et de professionnels confirmés.
Le public ne sera pas en reste avec notamment des conférences proposées à son intention. Abigail Serrand, directrice de la MEL, explique le choix de Montée pour l'emplacement de cette maison.
Il y a le fait que la commune de Montée a immédiatement réagi, a dit qu'elle nous accueillerait, et puis il y a le fait que Montée est un carrefour. C'est vrai que quand on est en transport en commun, parfois on l'oublie un petit peu parce qu'il faut passer par Saint-Maurice ou Aigle pour nous atteindre par rapport aux grandes lignes. Mais si on regarde au niveau géographique, on est à 30 minutes de Sion, on est à 30 minutes de Lausanne, on est à 40 minutes de Fribourg, on est à 20 minutes de la France, que ce soit par Morgin ou par Saint-Gingolph. Et donc finalement, on est très central. Et je pense, parce que j'ai donné quelques ateliers d'écriture aussi il y a quelques années, où j'avais des gens qui venaient d'Yverdon, de Sierre ou d'Évian, et je crois que c'est là que j'ai compris que Montée était un véritable carrefour et qu'il fallait vraiment qu'on utilise ce carrefour à la fois valaisan, parce qu'on est le point d'entrée sur une des parties du Valais, bien sûr qu'il y a la partie par le Lutschberg et puis par le Haut-Valais, mais on est aussi un carrefour d'échange, parce que le canton de Vaud est à proximité, la France est à proximité, et puis le Var central, on est tout à côté aussi, donc je crois que c'est aussi important d'utiliser cette zone géographique particulière qu'est Montée.
Découvrez l'interview complète d'Abigail Serrand sur notre site internet. La Maison des écrivains ouvrira ses portes au public le 18 novembre, mais les cours commencent déjà dès le 3 octobre. Il est possible de s'y inscrire ou de rejoindre l'association sur le site internet mel.ch, un sujet signé Valérie Blom. Vevey lance une procédure de zone réservée, laquelle concerne le secteur nord-est de la ville, un endroit soumis à une pression immobilière grandissante. Cette démarche vise à suspendre provisoirement les projets de construction jusqu'à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation. Ces mesures conservatoires ne devraient pas toucher les projets de rénovation, d'assainissement énergétique ou certaines extensions.
La projection du budget 2023 de l'État de Vaud est dans le rouge.
Elle affiche un déficit de 227 millions de francs, dû notamment au contexte mondial inflationniste et incertaine qui dure depuis maintenant 2 ans. L'objectif annoncé pour l'an prochain est toutefois d'augmenter le pouvoir d'achat de la population vaudoise, avec notamment une réduction d'impôts pour la classe moyenne et les familles. Logique, selon la nouvelle conseillère d'État chargée des finances, Valérie Dietli.
C'est exactement ce qu'on doit faire dans des situations sombres, c'est soulager la population et redonner du pouvoir d'achat pour que la population puisse affronter des situations compliquées avec une augmentation de la prime LAMAL, avec une augmentation des coûts pour l'énergie, avec une augmentation des biens de manière générale avec l'inflation. Donc c'est exactement ce qu'un État doit faire dans ce genre de situation, c'est soulager le porte-monnaie et donner plus de pouvoir d'achat.
Une augmentation du pouvoir d'achat qui passera aussi par de nombreux investissements pour une somme de plus d'1 milliard de francs seront visés entre autres les milieux du climat et des transports publics. L'objectif, préparer l'avenir de la meilleure des façons, Valérie Dietli.
Toute la politique d'investissement est pour les générations futures parce qu'on investit aujourd'hui pour demain. On a des investissements pour le budget 2023 qui sont à la hauteur de plus que 1 milliard. C'est un montant conséquent et tous ces projets sont pour les générations futures. Ce qui est super important pour moi, c'est cette patte que j'aimerais ajouter au gouvernement de penser à demain, déjà aujourd'hui.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Notons encore que le budget 2023 prévoit une augmentation de plus de 400 postes au sein de l'administration communale.
Le reggae va résonner dans la station des Crozets dans le Val d'Illier ce week-end.
La première édition du Crozet Estival accueillera en effet plusieurs artistes romands, dont le chablaisien Timan Faya. Pour cet événement qui se veut ouvert au grand public, de nombreux artistes romands et français viendront enchanter le public. Un festival original qui a germé dans la tête de Steve Gluck, patron de l'hôtel des Portes du Soleil et de son ami Timan Faya.
On est tous les deux des fans de musique. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans depuis. J'ai commencé comme DJ, j'ai bossé sur une autre radio concurrente. J'ai été voir tout le monde en concert. Je me suis dit un jour, faut que je fasse mon festival. Et puis, en parlant une fois avec Bastien, on s'est dit pourquoi pas le reggae.
Comme je suis dans cet univers-là et que Steve m'a parlé de son festival, on est arrivé en fait en accord sur quelque chose qui se faisait un peu moins que ce qui se fait d'habitude. Et du coup, on s'est dit qu'on allait, pourquoi pas, lancer une édition justement reggae. Et puis déjà lancer une première édition comme ça, voir tâter un peu le terrain et voir si effectivement ça peut plaire aux gens. Et voilà. Ça représente certaines générations déjà, Iwalk Sound par exemple, qui sont là depuis déjà pas mal d'années, qui ont aussi fait beaucoup tourner leur musique, et surtout un morceau qui s'appelle Toi qui me juge, qui est très connu, et du coup ça touche plusieurs générations, et aussi du coup aussi la nouvelle génération reggae de France et de Suisse. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, quoi.
On a tous déjà voulu un monde équilibré.
Timan Faya et Steve Gluck au micro de Xavier Borgeot. Le jeune public et les familles pourront également profiter de différentes activités le dimanche, le tout dans une ambiance musicale portée par l'artiste Jackie Laguerre. Seule une toute petite minorité de jeunes électeurs en baisse constante souhaite une adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Selon une étude réalisée après les élections fédérales de 2019 et publiée aujourd'hui, seuls 6,5% des électeurs de 18 à 34 ans y étaient favorables.
Les élections législatives ont lieu ce dimanche en Italie.
Un événement politique qui va attirer l'attention de nombreux citoyens en Suisse d'origine transalpine. L'enjeu est de taille. Pour la première fois, une femme semble en mesure de se hisser à la tête du gouvernement. Avec son parti nationaliste Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni est alliée à deux autres formations de droite. Une situation qui inquiète la conseillère aux États Verts Céline Vara. La Neuchâteloise binationale participe à ces élections.
Je suis bien placée pour savoir qu'on est bien représenté que par les gens qu'on élit. On se dit effectivement qu'à terme, ça pourrait être une femme, enfin, qui arrive au pouvoir, mais qui défend des valeurs d'extrême droite. C'est un scénario qui m'inquiète, parce que je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'Italie d'avoir un gouvernement qui est sur le repli et qui met en avant comme seul programme l'identité nationale. Je crois que les Italiens, d'ailleurs, sont assez fatigués. Quand les gens sont fatigués, soit ils se désintéressent de la politique et donc ils ne se mobilisent plus, la démocratie est en péril, soit ils votent de manière rebelle en votant pour les extrêmes, et ça c'est toujours dangereux.
Autre élue binationale au palais fédéral, la verte Elisa Mazzone va aussi voter à ces élections italiennes. La genevoise se dit soucieuse de l'arrivée possible d'une droite de la droite au pouvoir. Elle dresse cependant un constat nuancé sur l'Italie, Elisa Mazzone.
Je pense que la gauche n'est pas dénuée de tort dans cette situation. Et il y a aussi une question d'arrogance et de la manière dont on fait de la politique. On a eu le mouvement 5 étoiles en Italie qui a aussi donné un message, je pense, sur une certaine distance entre la politique et les citoyennes et citoyens. Il y a un enjeu important dans un pays qui garde des structures qui ne sont pas toujours exemptes de dysfonctionnement. C'est des dysfonctionnements dans l'État. Et du coup, on se dit, mais voilà, à quoi sert l'État? Qu'est-ce qu'il fait pour moi?
Un sujet de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. À l'étranger, la commission d'enquête de l'ONU sur l'Ukraine a affirmé aujourd'hui que des crimes de guerre ont été commis dans le pays depuis l'invasion par la Russie en février dernier. Le président de la commission, Eric Moze, a énuméré des bombardements russes sur des zones civiles, de nombreuses exécutions, de la torture et des mauvais traitements, ainsi que des violences sexuelles. Au moins 36 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations qui ont éclaté il y a une semaine en Iran après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs, a indiqué une ONG basée à New York. Mahsa Amini, âgée de 22 ans, a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour le port de vêtements inappropriés par la police des mœurs, chargée de faire respecter le code vestimentaire de la République islamique. Elle est décédée 3 jours plus tard à l'hôpital et sa mort a entraîné une série de manifestations à travers le pays. En tennis, la carrière de Roger Federer prendra officiellement fin ce soir à Londres. Jamais je m'aurais rendu compte de dire ça, Axel.
Quelle tristesse.
Le Balois disputera en effet un dernier double aux côtés de Rafael Nadal dans sa Laver Cup. Une semaine après avoir annoncé sa retraite sportive, le Suisse a confirmé qu'il ferait équipe avec son ancien rival espagnol. Les deux hommes, qui cumulent 42 titres du Grand Chelem, défieront les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe. En marge de la compétition organisée dans la capitale anglaise, l'ancien numéro 1 mondial en a profité pour répondre à de très nombreuses sollicitations médiatiques. Et Roger Federer n'a pas manqué de revenir sur sa décision de mettre un terme à sa carrière.
La décision pour moi de plus jouer au tennis, elle est venue en quelques jours après, quand j'étais à Wimbledon en fait. Pour moi, là, ce moment, il était émotionnel quand j'ai dit, écoute, c'est fini, c'est bon, j'ai bien compris et je sais que c'est la bonne décision et la seule bonne décision. Et après, du coup, en fait, des semaines passent sans que je pense beaucoup à ça. Et c'est juste, il y a 3 semaines en arrière où je commence vraiment maintenant à m'occuper avec le sujet. Mais juste peur qu'il y ait des fuites et tout ça, ça c'était un peu le stress à la fin, mais ça allait.
À noter que cette dernière rencontre officielle de Roger Federer est donc prévue ce soir à Londres. Le match devrait commencer aux alentours de 22h, heure suisse.
En course à pied, la capacité d'adaptation est au cœur de la 8e édition de l'Humani Trail.
Les préparatifs de l'épreuve programmée demain au Diableret ont été fortement perturbés. Hormis la météo capricieuse annoncée ce week-end, l'incendie qui a ravagé lundi un restaurant situé sur le domaine de Glacier 3000 a des conséquences. Il a en effet fallu modifier le plus long des 3 parcours qui figurent au programme. En revanche, la manifestation conserve sa dimension humanitaire. Les fonds récoltés via les inscriptions seront à nouveau dédiés à des projets de scolarisation d'enfants au Népal, un aspect qui attire évidemment un certain nombre de concurrents. Les explications de Cédric Agassi, président du comité de organisation de l'Humani Trail.
Je pense qu'il y a une partie des participants, c'est difficile à estimer la part, hein, mais c'est vrai qu'on voit qu'effectivement chaque année on a souvent pas loin de 5000 francs qui sont rajoutés par les coureurs lors de leur inscription pour financer des projets. Donc c'est clair que ces gens qui versent plus que le prix du dossard, on peut dire qu'effectivement ils viennent pour cette raison-là. Je pense qu'on peut estimer que peut-être la moitié des participants en tout cas viennent parce que, en fait, s'ils doivent choisir, bah pourquoi pas choisir l'Humani Trail.
Cédric Agassi, au micro de Julien Traxel. Cette 8e édition de l'Humani Trail se tiendra donc demain au Diableret. Près de 1000 participants sont attendus.
Et ce soir, Guillaume, quoi de prévu au programme ?
22h, le match de Roger Federer, le dernier de
ça
sa carrière.
Émouvant quand même.
Ça va être quelque chose. Mais n'oublions pas que Stanislas Wawrinka, lui, de son côté, fait un bon parcours dans son tournoi de VTA. Il a gagné hier, d'ailleurs, contre un top 5, je crois, Daniil Medvedev.
Effectivement, oui, on n'oublie pas Stan Wawrinka. Mais ce soir,
on a de quoi se consoler au niveau tennis.
On fera un gros au revoir à Roger Federer. Bon appétit, hein, Guillaume.
C'est pas ça que j'ai voulu dire.
Ouais, je sais.
L'actu continue. Radio-chablais.ca.